Le grand oral des grandes gueules.
Recevons Patrick Buisson, La fin d'un monde. Oui, c'était mieux avant, c'est sous-titre aux éditions Albin Michel. Bonjour Monsieur Buisson.
Bonjour.
Ça vous a amusé quand je vous ai présenté comme le mauvais génie de la droite?
Oui, parce que j'ai trouvé que c'était une esquisse courtoisie de votre part. J'aurais préféré que vous disiez également que je descends en ligne directe de Landru et de Jacques Léventreur, ce qui aurait permis comme de cerner le personnage d'emblée, parce que ça évite les quiproquos par la suite.
On pourrait dire Monsieur Réactionnaire.
Oui. Alors, moi, j'ai une définition de la réaction, je peux vous la donner. Vous savez, dans les courses de Formule 1, il y a les voitures qui sont en tête, qui paraissent surpuissantes, formidables, tout le monde a les yeux de chimène pour les voitures et les conducteurs. Et puis, en queue de peloton, il y a une bagnole là, qu'on regarde avec commisération, on s'en moque un peu. Ce qu'on oublie, c'est qu'elle a un tour d'avance. C'est ça, les réactionnaires. C'est les gens qui, grâce au recul que leur donne l'histoire, voit plus loin et plus vite. D'ailleurs, Jacques Ellul, le grand Jacques Ellul, disait « Moi, je suis réactionnaire à la manière des avions en réaction, vous voyez. Je vais plus vite. »
Selon les dernières études, la France n'a jamais été aussi à droite. Finalement, vous êtes en train de triompher?
Non. Non, parce que quelle droite, hein? Vous comprenez qu'il y a droite et droite, hein? Si c'est la droite de l'argent, si c'est la droite des winners, si c'est la droite des gagnants, cette droite-là, non seulement ne m'intéresse pas, mais je la combats. Voilà. Moi, je me rattache à une tradition ou une analyse, si vous voulez, qui met en avant la société, les raisons de faire société, la socialité. Je trouve que c'est le grand problème de l'époque, c'est que tout ce qui faisait le lien social entre les Français a disparu. Alors, donc avant de faire nation, il faudrait faire société.
Qu'est-ce qui faisait le lien social entre les Français?
Ça a été longtemps le sacré. Vous savez, la paroisse, elle a préexisté à la commune, hein. Voilà, l'histoire de France, elle est déjà. Alors, c'est un sacré extrêmement compliqué. C'est pas simplement le catholicisme. C'est le catholicisme qui absorbe une partie du paganisme. Les saints intercesseurs, les fontaines des guérisseurs, ce sacré transcendant, si vous voulez, qui a souvent créé le lien et maintenu ce lien. La religion catholique, à la différence du paganisme, c'était une religion à la fois microcosme et macrocosme. C'est-à-dire qu'elle reliait les hommes entre eux et les hommes à Dieu. C'est-à-dire qu'elle avait une double fonction, une fonction sociale et une fonction spirituelle. Aujourd'hui, plus rien n'exerce la fonction spirituelle. Il y a un sacré horizontal. Et par exemple, la religion de l'amour, après-guerre, a été une forme de sacré horizontal. Mais finalement, l'expérience qu'en ont les hommes est plutôt décevante, parce que jamais on a autant divorcé, jamais autant les couples n'ont été aussi solubles. Finalement, les partenaires sont les partenaires Kleenex. Hein. Les gens qui ont fait 50, 60 mariages aujourd'hui sont en temps de mariage, on n'en trouve plus, ou pratiquement plus.
Alors justement, dans la fin d'un monde, dans ce livre, vous expliquez d'où vient la décadence de la France, hein, selon vous. Ça a commencé dans les années 60, ça va jusqu'en 75, et en fait, ça correspond à la libération sexuelle. C'est ça qui a provoqué en partie...
Ça sera l'objet du deuxième tome.
Vatican II.
Mais ça sera l'objet du deuxième tome. Oui, mais parce que mon propos... Alors, moi, effectivement, si les gens ont du réactionnaire, cette vision-là, moi, je ne suis pas contre le progrès technique. Je dis que ce que nous avons gagné ne se mesure qu'en termes de progrès technique. Et c'est ça, le problème. En revanche, ce que nous avons perdu, c'est l'altérité, le sens du don, de la gratuité, de l'entraide, de la solidarité, de la légèreté, de la pudeur, de la gaieté, tout ce qui faisait les valeurs du monde ancien. Ce que les Français ont applaudi à 20h pendant 3 mois, à travers le personnel hospitalier, à travers les premiers de corvée qui ont maintenu la France à bout de bras. Le don, la gratuité, le dévouement au bien commun, l'antithèse des valeurs d'Emmanuel Macron, du monde nouveau, hein. C'est la société du don et du devoir qui l'a emporté à ce moment-là, miraculeux, un moment de grâce, sur la société du droit et du dû, qui est la société du monde nouveau, j'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que les Français ont discerné dans cette crise extraordinaire qui présente beaucoup de leçons pour nous. Je voudrais juste vous toucher un mot d'autre chose. Mais la bonne nouvelle, ça a été effectivement le retour de ce monde ancien à travers ces gens qu'on découvrait, les petits gens qui tenaient la France. C'était pas les PDG du CAC 40 qui faisaient tourner la France.
Bah, non. C'est aussi quand même les laboratoires du CAC 40.
Les laboratoires français, vous voulez dire? Ceux qui ont inventé le vaccin avant tout le monde?
Mais américains ou anglais ou chinois ou russes qui ont le vaccin et qui vont nous sauver.
Oui, mais
les petites gens
ce que je vous dis, c'est que je suis plus attaché. Moi, le fait d'avoir un iPhone avec une multiple fonction dont je me sers pas, je m'en fous. Le fait de constater le changement de la qualité humaine, des rapports à l'intérieur de la société, en revanche, c'est ça que nous avons perdu, et c'est ça que je salue à travers ce livre. Et juste un mot sur la pandémie. Je voudrais attirer votre attention, parce que c'est vraiment très important. C'était un vieil invariant anthropologique qui a bougé. Et Personne ne l'a remarqué. Vous savez, en période de guerre, de catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Le taux de suicide s'effondre. Quand on a du mal à survivre, on n'est pas frappé par le mal de vivre. Hein. Quand on a du mal à être, ou tout simplement, le mal d'être vous préoccupe pas. C'est la première fois. Sur l'occupation, le taux de suicide s'était effondré. Les gens, la consommation de psychotropes, nous sommes les premiers au monde, 65 millions de boîtes. 65 millions de boîtes a explosé. Donc, ça veut dire que le problème politique, c'est le problème, il y a un mal-être social. Ne pas poser ce diagnostic, ne pas voir ce que les chiffres et la réalité nous disent à la veille d'une élection aussi importante que celle de 2022, c'est se tromper dans l'analyse qu'on fait des événements.
La solution, c'est un retour en arrière.
Je veux dire, les retours en arrière, parfois, ils ont du bon. Quand on s'est trompé de route, il vaut mieux rebrousser chemin et prendre la bonne. Si vous appelez ça un retour en arrière, moi, je veux bien.
Est-ce que ça existe? On n'a pas d'exemple historique.
Alors, question.
Mais si, l'histoire est faite de cycles. Vous voulez que je vous donne un exemple?
Allez-y.
Très simple. Oui. Mai 68, c'est quoi? C'était à Nanterre, vous voyez, en 67. Donc, j'ai bien connu les événements. Et la population sociologique de Nanterre, c'était les fils de la bourgeoisie. 8e, 16e, 17e, Neuilly, Courbevoie. C'est quoi? C'est la révolte anti-autoritaire, 68. Oui. Papa pue. La figure paternelle est évacuée. C'est la vieille obsession de l'école psychanalyste de Francfort, William Reich. Le père et la famille sont les touffoirs. Ils représentent l'autorité. C'est pas possible. On veut pas d'une société qui nous enferme. Et donc, c'est un mouvement de désinstitutionnalisation. D'accord? On est bien d'accord, c'est ça. C'est la révolte contre toute forme d'autorité, notamment l'autorité paternelle que le général de Gaulle incarne à la perfection, même grand paternel, on va dire. Eh bien, la semaine dernière, on a assisté à la fermeture d'un cycle et au redémarrage d'un autre. C'est un retour en arrière, cher monsieur. Oui, bien sûr, la tribune des militaires approuvée par 58% des Français qui vous disent « on veut l'autorité, on veut l'ordre, on plébiscite l'institution militaire ». La réalité, c'est ça. L'aspiration à la restauration de l'État et de l'autorité revient 60 ans après 68. Cohn-Bendit a été enterré la semaine dernière et il ne le sait pas. Voilà l'information
Isabelle Saporta.
Écoutez, moi, je disais à Olivier Truchot avant cette émission que j'ai été très... décontenancée en vous lisant, parce que au fond, on pourrait être d'accord sur beaucoup de choses, vous et moi. Donc, je me suis dit, mince, quand même, Patrick Buisson, c'est très très à droite. Mon Dieu, que m'arrive-t-il?
Vous devenez sulfureuse.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous dites...
Bon, tu dis
sur, moi, oui aussi, merci. Merci, monsieur Truchot. Ça se dit pas, ça. C'est très misogyne. Non. La question n'est pas là. C'est que tout ce que vous dites, par exemple, quand vous reparlez de cette épidémie en disant, au fond, on a sanctifié quasiment le corps nu plutôt que de se poser la question du corps social et de une certaine transcendance. C'est-à-dire qu'on a fermé les églises. Il n'y avait pas d'échappatoire intellectuelle ou, effectivement, religieuse. On s'est déshumanisé puisqu'on, au fond, on n'a même pas pu enterrer les siens. Donc, c'est ce qui fait quand même la différence entre nous et l'animal. Et donc ça, ce sont des choses que je partage avec vous. Enfin, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord aussi sur... Je ne vois pas pourquoi la gauche a abandonné la question de l'autorité. Je ne vois pas en quoi la restauration, au fond, de l'autorité serait une question de droite. Je pense que les personnes qui souffrent le plus, au fond, de la précarité, de la violence, ce sont ceux qui sont dans les banlieues et donc qui la vivent au quotidien. Alors, par contre, là où j'étais complètement soulagée, mais alors là, c'était parfait, c'est quand vous avez commencé à dire que vous préfériez une jeune fille voilée à une jeune fille en string. Alors là, moi, de loin, je préfère celle en string. Donc ça, je me suis dit, ça y est,
ça dépend
on est
pour
tranquille.
Quel usage, moi, je sais pas.
Non, ce que je veux dire, c'est que je préfère une jeune femme qui préfère la libération de son corps et ça, plutôt qu'une jeune femme voilée. Et là où je voudrais juste vous relancer là-dessus, j'ai senti presque une fascination, admiration pour les intégristes islamistes.
Oui, je suis en pleine dimitude. Vous allez avoir du mal.
Patrick Buisson.
Il y a une ambiguïté quand même.
Je vous ai trouvé très ambigu.
Monsieur Buisson, allez-y, réponse.
La question de notre rapport avec l'islam est effectivement posée à travers notre rapport au sacré. Mais pour nous, c'est un corps totalement étranger. Donc, on les regarde comme ça en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces olibrius qui mettent au-dessus de leur propre vie quelque chose qui s'appelle la transcendance. Et nous, ça nous est tellement étranger que c'est effectivement, on le vit comme une agression, comme une provocation. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la libération de la femme, mais... Dans le rapport à l'islam, ne voyez pas mon propos comme un propos phallocratique. Je considère au contraire que la libération sexuelle a accompli une bonne partie du programme de la phallocratie. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Je voudrais vous dire qu'on a un autre peut-être point commun. Moi, mon idée, si vous voulez, l'idée qui sous-tend ce livre, c'est qu'il n'y a pas de progrès pur.
Non, ça c'est sûr. Et
le progrès est toujours paradoxal. Il peut être même parfois agressif. Là, on est confronté à un événement régressif. On est aussi démunis que le Moyen-Âge devant la peste noire. Beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le recours de la religion, ou d'aucune transcendance, ou d'aucune sacralité. Et c'est, le progrès, il a des bénéfices, mais il a aussi des effets qui annulent ces bénéfices. Je prends juste un exemple, j'essaie d'être rapide. La révolution agricole, à partir de 45. Motorisation, utilisation des intrants chimiques, 5 millions d'emplois détruits, les paysages saccagés.
Épouvantable.
État, mort des paysans, mort des paysages. Le remembrement à partir des années 57-58, la destruction des paysages et la destruction de l'humanité qui vivait là depuis un millénaire. Pour arriver à quoi 50 ans après ? On redécouvre les vertus de la permaculture.
Bien sûr.
On redécouvre l'agriculture bio. D'accord. On a tout massacré. On a précipité dans la trappe de l'histoire 5 millions d'hommes. Au nom du progrès, comme au nom du progrès, on a esclavagisé la classe ouvrière au 19e siècle.
Oui,
on a travaillé 15 heures par jour, le travail des femmes et des enfants.
C'était 5 millions d'hommes et de femmes qui mouraient aussi à 45 ans, qui se tuaient à la tâche, certes qui fournissaient à manger à la France, mais qui mouraient beaucoup plus tôt.
Mais j'oublie pas l'ennemi principal, moi. Je suis pas trotskiste pour autant. Le responsable numéro un, c'est le capitalisme, bien sûr. Le plus destructeur des mœurs, des croyances, des coutumes, c'est le capitalisme. C'est ça qui broie tout. Et d'ailleurs, la révolution agricole, elle se fait au nom de la productivité, de la rentabilité. Elle se fait au nom de toutes ces vertus économiques dont on nous explique que si on ne comprend pas ce qu'elle apporte à la société, nous sommes des demeurés, pour tout dire des réactionnaires. Eh bien non, moi je dis que le progrès aboutit à des situations humainement, économiquement, invivables parfois, et qu'on ne veut pas le voir, parce que ça nous arrange d'avoir une vision linéaire de l'histoire. Elle est cyclique, l'histoire, elle n'est pas linéaire.
Rapide, les questions, parce que le temps passe.
Oui, mais justement, Patrick Buisson, vous évoquez beaucoup la question de l'Église, et notamment de l'Église institutionnelle. Or, il me semble peut-être, alors la question c'est, est-ce que vous en avez une vision un petit peu idéale, puisque, je veux dire, avant Vatican II, puisque je ne connais pas votre bibliothèque, mais je pense que nous avons un auteur commun, c'est Bernanos, et Bernanos déjà raillait cette église du 19e qui justement s'était ralliée au capitalisme, ralliée à la société de masse. Il accusa aussi, vous le savez, dans les grands cimetières sous la lune en 1938, l'Église qui s'était ralliée au fascisme.
Franco, oui.
Voilà.
Oui, oui,
oui. Et puis après 45, il fustige l'Église catho de gauche qui aboutira à Vatican II, mais il fustige aussi les démocrates chrétiens. Donc, vous voyez que des grands auteurs comme Bernanos, qui sont un grand auteur catholique, mais pas que catholique, et qui condamnait justement cette société de masse, il critiquait déjà profondément l'institution ecclésiastique. Et c'est pas Vatican II qui a fait basculer l'Église dans la désacralisation.
Vous le savez, avant Bernanos, c'est Léon Blois, à la fin du 19e, qui est exactement sur la même ligne. Vatican II, comme belle erreur, qui est une erreur stratégique. Au moment où il aurait fallu réaffirmer ce à quoi sert la foi. Alors, excusez-moi de voir l'utilité sociale de la foi, c'est pas un propos très croyant. L'Église catholique sera pas très contente de m'entendre, sûrement. Et pourtant, je dis des choses qui, à mon avis, participent d'une juste analyse. Au lieu de rejeter à la fois le consumérisme, non, c'était l'explosion, l'avènement dans l'histoire de l'humanité et le socialisme en même temps, les deux matérialistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils abaissent le niveau de sacralité, ils abaissent le niveau d'exigence. Ils vont se percher sur la branche horizontale de la croix, déjà très encombrée par tous les humanismes de l'époque, par toutes les immanences humanistes. Ils le font d'ailleurs au moment où ceux après lesquels ils courent sont ailleurs. Foucault, Marcus, l'anti-humaniste qui est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un train de retard. Et ils ne voient pas qu'en faisant ça, ils se banalisent. C'est-à-dire qu'ils se mettent au même rang que les religions séculières qui sont en train de gagner du terrain, notamment la religion des choses que décrit Perret, le consumérisme. Ils ne voient pas qu'ils perdent toute leur spécificité. Ce fut une erreur stratégique considérable.
Alors, parlons politique.
D'accord. Parlons aussi du climat politique et du paysage politique actuel. Il vous intéresse encore, par exemple, ce qui se passe en ce moment chez les Républicains, certains qui rejoignent Macron, d'autres qui veulent continuer à croire à une offre politique entre Marine Le Pen et Macron?
Alors, ce qui se passe chez les Républicains est intéressant à deux titres. Une élection présidentielle, c'est quoi? C'est mobiliser ses soutiens au premier tour, démobiliser ses adversaires au second. Hein chez les Républicains, ce qui se passe traduit, à mon avis, ce que la dernière étude du CVPOF montre, c'est-à-dire nous avons affaire à des queues de comètes, là, hein, des astres morts. Hein, le Parti Socialiste et les Républicains. Ils ont encore des élus, mais après tout, le Parti Communiste a aussi des élus 30 ans, 40 ans après ces beaux jours. Ils sont toujours dans une logique effectivement de réponse économique, un peu plus de distribution, un peu moins de redistribution, un peu plus libéraliste, un peu moins libéraliste, alors que les problèmes de la société française ne sont pas ceux-là. En tout cas, c'est pas l'approche qu'il convient de... Encore que je suis plutôt redistributeur que partisan d'une austérité budgétaire. Mais c'est pas les problèmes des Français. Et pour la première fois, les Républicains, ça leur fait tout drôle d'ailleurs, quel que soit leur candidat, extérieur ou pas extérieur, vont devoir affronter cette élection depuis 1965, depuis la création de l'élection présidentielle, avec un candidat qui apparaîtra comme risquant de ne pas pouvoir être qualifié au second tour. La première fois, même Fillon, amoché par le guet-apens judiciaire dont il a été victime, était au coude à coude avec Mélenchon, avec Marine Le Pen. Il avait donc encore une chance de qualification. Là, si le candidat des Républicains, quel qu'il soit, est à 15, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de cette élection, le réflexe de vote utile, la dynamique de campagne, va jouer contre lui. Et donc, généralement, ça se termine comme chevènement. Il démarre à 15, il finit à 5 en 2002. Mmh. Ça se termine en sous les 10. Donc ça, c'est un phénomène psychologique extrêmement important, c'est qu'ils ne sont pas dans le ticket du deuxième tour. Et donc, évidemment, ça risque de reconfigurer le rapport de force du premier. La seconde chose, c'est qu'une partie, si j'ai bien compris, mais je n'arrive pas toujours, je connais bien Renaud Muselier, donc je suis un peu surpris, une partie des Républicains va soutenir Macron dès le premier tour. J'ai bien compris. Le plus notable, le plus célèbre des Républicains même, dit-on, est tenté par un soutien dès le premier tour, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Alors, simplement, je serai les Républicains, et croyez bien qu'il n'entre dans mon propos aucun ressentiment à l'égard de Nicolas Sarkozy, dont je reconnais les éminentes qualités, mais je connais aussi les terribles défauts. Si Sarkozy soutient publiquement Macron, et que Macron explique ou que ce soutien, il l'accepte, eh bien, il ne faudra pas se demander à qui Marine Le Pen devra son élection. Je vous le dis tranquillement et simplement. C'est démobiliser une grande partie de l'électorat de gauche qui n'ira pas voter pour le candidat Macron soutenu par Sarkozy. Le Front Républicain ne se fera pas. Il n'y a pas besoin d'être un politologue averti pour comprendre cela. Hein. D'ailleurs, pour en avoir discuté sur un autre plateau avec Gérard Miller, qui est par un homme de...
droite.
De droite, eh bien, il me dit, moi, je n'irai pas voter. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, évidemment, est en train de reconfigurer le rapport de force.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière analyse qui a été faite sur, justement, cette histoire de Renaud Muselier et le Front Républicain. Plus personne n'y croit. Et notamment chez les jeunes, et notamment chez les CSP+, c'est-à-dire chez ceux qui faisaient fonctionner, ben oui, au fond, ce Front Républicain. Anti-macronisme, anti-sarkozisme.
Dernière question rapide.
Il y a le rapport de la CIA qui est sorti hier avec les nouveaux enjeux pour les 30 ans ou 40 ans à venir. Et dans ces enjeux, on voit que par exemple, un des enjeux essentiels, c'est ceux qui posséderont la maîtrise des objets connectés, qui auront les informations sur tout le monde, seront les maîtres du monde en quelque sorte. Les prochains enjeux, c'est l'écologie, etc. Et moi, j'ai l'impression que dans le débat actuel, tous ces enjeux essentiels qui nous guettent demain, il n'y a aucun homme politique qui en mesure, parce que tous les hommes politiques vous ressemblent en quelque sorte, ils regardent dans le rétroviseur, et aucun ne regarde en face de lui.
Patrick, sans réponse. 40 secondes.
Regarder dans le rétroviseur, c'est quand même très utile pour éviter d'être embouti par l'arrière. Ça a quand même son intérêt. Et regarder dans le rétroviseur, c'est lire l'histoire. Or, l'histoire, moi, je crois, je ne veux pas au cuistre, qu'elle est magistrat vitae. Elle enseigne la vie. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avant, alors l'histoire ne se répète jamais, elle repasse par les plats, on connaît la phrase de Marx là-dessus, mais elle nous apprend des tas de choses, si vous voulez. Et donc, se projeter en disant, demain, l'intelligence artificielle, ça, précisément. Je veux dire, à la limite, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le culte de la technique. Le couple abrasif entre la technique et la science, d'ailleurs, on en a vu les limites avec la pandémie. Oui. Vous avez vu le spectacle qu'ont donné les morticoles sur les plateaux de télévision? On a compris une chose qui a un rapport avec 2022. C'est la délégitimation de la parole experte. Exactement. Et notamment celle des scientifiques. C'est-à-dire que Macron ne pourra pas faire le coup de la compétence en disant « c'est une grosse nulle » et moi, je sais. Les sachants qui veulent jouer les sachems, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et c'est quand même la grande leçon. C'est que la science a montré ses limites face à la bestiole, face au coronavirus. Et donc, moi, le monde technique dont vous me parlez, les gens connectés, moi, ce qui m'importe, c'est la collection de mes synapses avec le reste. Tant que ça fonctionne, je peux comprendre le monde. En tout cas, je m'efforce de le faire. Le reste...
Et j'ai l'impression que les synapses fonctionnent encore correctement. Merci Patrick Buisson. La fin d'un monde, édition à Albin Michel. À lire.
Merci d'être venu.